Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'interprétation du Coran est-elle datée ? L'antisémitisme musulman est la plus grande menace qui pèse sur l'islam du XXIe siècle. En conséquence, nous demandons que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques. Voilà ce qu'on pouvait lire, notamment, dans une tribune publiée fin avril dans Le Parisien aujourd'hui en France, tribune signée par quelque 200 personnalités du monde culturel, intellectuel et politique et intitulée « Manifeste contre le nouvel antisémitisme ». Quelques jours plus tard, dans Le Monde, une trentaine d'imams répondent indirectement à ce manifeste en reconnaissant l'existence de lectures dévoyées du Coran, générant une anarchie, je cite, « une anarchie religieuse gangrénant toute la société », mais aussi en appelant les intellectuels et les politiques à faire preuve de plus de discernement dans leur critique de l'islam, critique porteuse selon eux de nombreux clichés. Alors ces débats posent à la fois la question du contenu du texte initial, de ses interprétations au fil du temps, de la domination de certaines d'entre elles aujourd'hui qui encouragent le recours à la violence et de la méthode à adopter pour en produire de nouvelles plus en phase avec leur époque. Alors l'interprétation du Coran est-elle datée ? C'est une des questions que nous allons poser ce soir à nos deux invités. Mohamed Bajrafil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes théologien, imam à Ivry-sur-Seine, c'est en banlieue parisienne. Vous êtes un des signataires de la tribune des imams indignés que j'évoquais en introduction. Et vous avez publié cette année aux éditions Plein Jour, Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman. Pour discuter avec vous, Homero Marangiuperia. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste de l'islam français, chercheur associé à l'Institut de recherche sur le pluralisme religieux et l'athéisme. Vous avez signé une tribune en réponse à la tribune des 30 imams. Je ne l'ai pas évoqué celle-là, mais il y a eu beaucoup de contributions qui étaient intitulées « Encore un peu plus de courage, messieurs les imams ». Et on vous doit, c'était l'an dernier aux éditions de l'Atelier, en finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans. Et puis comme nous sommes le dernier jeudi du mois, nous sommes, comme chaque fois, en partenariat avec le journal La Croix et avec son directeur Guillaume Goubert. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Hervé.
Notre partenaire donc mensuel qui vous propose une interview de l'un et de l'autre de nos invités. Interview réalisée aujourd'hui par Anne-Bénédicte Hoffner. Alors je voudrais commencer cette discussion en vous faisant peut-être justement réagir à cette injonction qu'on pouvait lire dans ce manifeste contre le nouvel antisémitisme. Nous demandons, je rappelle à la phrase, une des phrases en tout cas, nous demandons que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques. Alors avant que peut-être que d'examiner cette idée de frapper d'obsolescence ces versets, est-ce que de tels versets existent dans le Coran, Mohamed Bajrafil ?
Non, aucunement. Le problème que cette injonction pose, ou un des problèmes, parce que en réalité elle en pose beaucoup, vient de ce que, au fond, ces auteurs ont procédé, alors je ne sais pas si c'est conscient ou pas, exactement de la même façon que ceux que l'on prétend tous combattre, c'est-à-dire ceux qui tiennent une lecture surfaciste, pour ne pas dire autre chose, et qui font de leur lecture ou de la lecture qu'ils décident d'adopter l'alpha et l'oméga des interprétations du Coran. Alors que celui qui a plongé le nez un tantinet dans cette affaire, je veux dire par là les interprétations ou l'interprétation du Coran, qu'on appelle en arabe tafsir, sait très bien qu'il en existe pas une seule, mais un seul verset a pu faire l'objet de 36 000 interprétations, souvent les unes opposées aux autres.
Mais là, ce ne sont pas les interprétations qui sont en cause dans ce manifeste,
oui.
C'est bien le texte même du Coran, puisqu'il est évoqué des appels au meurtre.
Mais c'est pour cette raison, justement, que je vous dis que cette injonction pose problème, parce que moi, je vous dis que la lecture du Coran que l'on peut faire de ces textes qui peuvent être aujourd'hui ou paraître aux yeux de certains, voire de nous tous qui vivons au XXIe siècle, comme violents, ben il existe d'autres lectures qui, une fois que l'on les situe par exemple dans le temps, c'est-à-dire à l'époque de la Révélation, eh bien prennent un sens qui n'est pas celui que l'on veut aujourd'hui. Et c'est ce que personnellement je leur en veux. C'est là-dessus que je leur en veux. C'est qu'ils savent pertinemment qu'il existe spécialistes des exégèses, qui ont dit le contraire de ce qui est soutenu, mais ils ont décidé d'adapter celle qui, justement, pose problème, au fond, en faisant exactement la même chose que Daesh. C'est-à-dire qu'ils prennent une lecture et disent « le Coran dit que », alors qu'ils savent pertinemment qu'il existe 36 000 lectures de ces versets.
Vous êtes d'accord avec ça, Omer Maranjou ?
Je comprends tout à fait ce que dit Mohamed, et je le rejoins sur la plupart du discours, avec peut-être une petite nuance, dans le sens où moi, je m'intéresse à ce que j'appelle les permanences de l'hégémonisme religieux. J'essaye de voir est-ce qu'il y a une cohérence des discours qui sont tenus par, pour faire très simple, les leaders religieux. J'entends par là les imams, les responsables du culte, les conférenciers, tous ceux qui sont amenés à prendre une parole sur la religion musulmane et sur l'interaction entre cette religion et la société. Quand on parle de frapper d'obsolescence des versets du Coran, moi je l'ai compris immédiatement, j'ai compris le fond du propos dans le sens non pas doter des versets du Coran, du texte lui-même, ce qui serait complètement absurde, mais de frapper d'obsolescence plutôt les yeux du lecteur. Or, aujourd'hui, il est indéniable que dans le champ religieux musulman, à l'échelle internationale, si on va sur les réseaux sociaux, si on va sur la masse de discours qui sont diffusés sur les circuits YouTube, etc., il y a une prédominance de discours qui continue ce que j'appelle deux choses. La première, c'est l'approche péjorative du divin, c'est l'idée du Dieu dominateur et compteur des actions et prompt à châtier, et la sacralisation à outrance du patrimoine. Et quand on parle de sacralisation à outrance, on parle de sacralisation des interprétations et des personnages, ce qui pose un problème puisque il y a une continuité ici, il y a une façon de se penser dans un continuum qui n'a pas opéré de rupture paradigmatique, c'est-à-dire qui n'a pas opéré de rupture avec cet hégémonisme religieux.
Mais ça, c'est un problème. Est-ce que vous diriez que certaines parties du texte du Coran autorisent justement cette interprétation particulière et problématique du texte? Il y a par exemple alors ce fameux, enfin je ne sais pas s'il est si fameux que ça, mais enfin en tout cas ce qu'on appelle le verset de l'épée, dont vous parlez d'ailleurs, hein, me semble-t-il, dans votre ouvrage Homero Maranjou, verset donc, alors qui dit ceci, alors dans une des traductions qu'on peut trouver, alors bon, je vous avoue que je les ai trouvées sur Internet, hein. Alors, c'est pas toujours exactement la même façon de dire le texte, mais qui dit ceci: combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne suivent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent l'impôt de la capitation et qu'ils se soumettent et s'humilient, avec l'idée que ce verset abrogerait des versets, disons, plus libéraux qui autorisent à chacun de croire finalement en ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a quand même justement dans le texte initial des passages suffisamment ambigus pour prêter le flanc à des interprétations problématiques?
Donnez-moi un paragraphe du plus vertueux des hommes, écrit par le plus vertueux des hommes, et j'y trouverai de quoi lui couper la tête ou le faire pendre. On connaît cette phrase bien, bien célèbre. Le texte en soi n'est pas un problème. Oui, le Coran comporte des passages qui sont violents. Oui, la Bible en comporte également, et certainement d'autres textes religieux. Le problème n'est pas là. Le problème est toujours dans les yeux du lecteur. Que le Coran ait fait référence à l'histoire des premières communautés musulmanes, de la première communauté musulmane, et des tensions qu'il y a eu avec les autres groupes tribaux, bon, c'est pas un scoop. Le problème, c'est que ce fameux verset de l'épée, déjà, je parle sous le contrôle ici de Mohamed, qui connaît beaucoup mieux cette problématique que moi. Les théologiens ont toujours été divergents sur quel est le verset de l'épée, déjà, puisque vous avez pris un passage coranique, on aurait pu en prendre d'autres, de la sourate de numéro 2 du Coran ou de la sourate numéro 9. Donc, il y a plusieurs passages qui sont évoqués. Le problème, c'est que d'un verset, on considère que ce verset abroge des dizaines de passages coraniques qui vont complètement dans le sens contraire et qui correspondent à ce que j'appelle, moi, reprenant ce qu'appellent les modernistes musulmans, les vecteurs orientés du Coran.
Ouais, vous dites d'ailleurs dans votre livre, hein, ce sont surtout les groupes islamistes et djihadistes qui ont exhumé cette ancienne théorie. Sûr. Mohamed Bajrafil.
Déjà, moi, dans mon livre, mon nouveau livre, j'ai abordé cette question de manière assez étonné. Et sincèrement, je l'ai écrit de la manière la plus... comment vous dire ça, la plus neutre possible, en me disant la chose qui suit. Dans le Coran, le mot épée n'est pas une seule fois mentionné. Aucune fois. Il n'y a pas une seule occurrence du Coran dans laquelle on trouve le mot épée. En arabe, c'est saïf. Et ce mot est absent du corpus coranique qui est quand même fait de 6235 versets. Comment on en est venu, et cette question-là, je me la suis posée vraiment dans mon livre, à nommer un verset du Coran comme étant le verset de l'épée, alors que le mot est absent. Ça, c'est la première des questions. La seconde question, Homero y a répondu justement en disant que ce fameux verset de l'épée, ils se sont mis d'accord sur aucun. Il y a quatre versets pouvant être le verset de l'épée. Troisièmement, il a abordé une notion très importante qui est celle de l'abrogation, à laquelle vous avez fait allusion. Et ce qui est beau dans tout cela, et c'est pour ces raisons qu'il a entièrement raison de dire que le problème n'est pas dans le texte, mais plutôt dans l'œil qui lit le texte, c'est qu'on trouve une chose et son contraire dans cette affaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que moi, ce que j'en ai conclu, c'est que en fait, on a des gens qui, à un moment donné de l'histoire, se trouvent être dans une hyperpuissance qui étaient les musulmans de l'époque, qui dominaient le monde, et qui faisaient peu de cas de celui qui n'était pas musulman ou de celui qui était opposé à. Et à partir de là, il a fallu trouver dans le texte coranique de quoi justifier les exactions qui étaient commises. Moi, je donne souvent des exemples à mes étudiants dans l'entretien que j'ai accordé à la Croix ce matin. J'ai abordé cette question en disant par exemple que avec mes étudiants, je prends des textes anciens de gens comme l'imam al-Nawawi, c'est une sommité de l'école Shafi'ite, il est mort en 677 de l'Hégire. Et je leur dis, écoutez, voilà dans son livre intitulé « Rawda », page 530, vraiment en bas de la page, il écrit, je cite, que si on a faim en temps de guerre, qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a rien d'autre à manger, on ne trouve pas de quoi se mettre sous la dent pour, n'est-ce pas, se sauver d'une mort certaine, eh bien, il dit, on peut s'en prendre à un enfant non musulman, le manger, ou le tuer et le manger, une femme en faire autant. Et là, mes étudiants, tout de suite, ils sont choqués, et c'est normal.
Il faut peut-être les mêmes yeux que je suis en train de vous faire, là.
Exactement. Et l'idée, ils me disent tout de suite, mais là, et je leur dis, voilà le problème qui se pose. C'est que lui, si vous le situez dans son temps, vous prenez un théologien chrétien, ou juif, ou même un philosophe, normal qui est de son temps, vous allez trouver des insanités pareilles et qu'il faut à partir de là comprendre que ces gens-là ont lu le Coran à la lumière des réalités qui étaient celles de leur temps et qu'il n'est pas du tout question de considérer cela comme des références absolues qui ne peuvent pas être remises en cause.
Guillaume Goubert.
Dans les entretiens que vous avez accordés l'un et l'autre à la Croix, et je vous en remercie, il y a un point sur lequel vous vous rejoignez qui est de dire qu'il y a eu une sacralisation de l'interprétation du Coran, non pas du Coran lui-même, mais de l'interprétation du Coran. Enfin, par ailleurs, il y a une sacralité du texte du Coran. Mais ce que vous soulignez, c'est que c'est son interprétation qui a été sacralisée. Comment ce processus s'est-il mis en place? À quelle époque? Et pourquoi certaines interprétations plus que d'autres? Homero
Narangio. Ça nous ramène à une question sous-jacente qui est elle aussi très intéressante. C'est l'idée couramment véhiculée selon laquelle il n'y a pas de clergé en islam, il n'y a pas de hiérarchie et chacun est amené à avoir sa propre lecture du texte sacré. C'est faux dans le sens où il existe bel et bien un corps de clercs en islam avec ses subdivisions. Donc ce sont les corps de théologiens, doctrinaires, fuqaha, ceux qui sont amenés à donner la loi et qui ont des graduations en fonction de leurs compétences. Il y a également des exégètes et souvent les grands personnages de l'islam sont pluridisciplinaires. Ils sont à la fois théologiens, juristes et exégètes. Aujourd'hui, dans les pays d'islam, il y a des ministères du culte dans tous les pays qui sont chargés d'organiser justement le culte et également la hiérarchie des corps de clercs.
Ça veut dire quoi? Qu'il y a une responsabilité directe de la hiérarchie religieuse de l'islam?
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe une cohérence exégétique. Aujourd'hui, on trouve à peu près 300 exégèses du Coran de référence. Mohamed corrigera si je me trompe. Et vous pouvez en télécharger très facilement à peu près la moitié. Vous avez un accès à ces exégèses sans aucun filtre. Vous trouvez des exégèses sur un continuum de 14 siècles. Et à partir de là, on va se poser la question, est-ce que ces exégèses sont réellement très différentes les unes des autres, ou est-ce qu'il y a quand même une certaine cohérence? Moi, je soutiens la thèse de la cohérence exégétique. Sinon, ça voudrait dire que l'islam est une religion chaotique et on ne pourrait pas en déceler un certain nombre de fondements et avoir des interprétations dans un certain continuum de temps et également de cohérence idéologique ici, ou théologique plutôt. Donc cela s'est produit à la jonction de l'Empire omeyyade et abbasside, au moment où l'islam se répand et des corps de clercs justement se constituent au fur et à mesure et organisent les champs disciplinaires. À partir de là, l'exégèse va devenir une discipline à part entière avec toutes ses subdivisions. Exégèse linguistique, exégèse théologique, exégèse mystique, exégèse juridique, avec une prédominance au fur et à mesure du temps de l'exégèse juridique et le dessèchement d'une vraie pensée théologique et philosophique également dans le champ islamique.
Et alors justement, quel est le rôle, enfin je vous laisse évidemment réagir Mohamed Bajrafine, mais aussi quel est le rôle des autorités religieuses, à propos desquelles, dans la tribune que vous avez co-signée, celle des 30 imams, vous dites que alors, s'il y a des lectures subversives de l'islam, c'est une situation cancéreuse à laquelle certains imams ont contribué, donc ça vous l'admettez, mais vous dites aussi souvent inconsciemment, c'est-à-dire comme si ça n'était pas quelque chose de penser, de théoriser.
Oui, parce que en réalité, dans ce cas de figure, j'ai l'impression qu'on a plus affaire à du mimétisme qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on est en train de rabâcher les mêmes choses, les mêmes discours. Et entre nous, la jeunesse n'en peut plus de ce point de vue-là, parce qu'elle a l'impression qu'on la considère un peu comme quelqu'un n'étant pas capable de raisonner. Donc de ce point de vue-là, en effet, inconsciemment, il y en a qui ont véhiculé un discours hérité de ceux qui les ont enseignés, qui eux l'ont reçu de ceux qui les ont enseignés, ainsi de suite.
Mais comment est-ce qu'on peut le faire inconsciemment quand on est soi-même imam et qu'on connaît quand même normalement parfaitement la matière qu'on enseigne?
Alors, c'est aussi une question très intéressante qui va m'amener à répondre justement à la question de savoir qu'est-ce qu'un imam. On a souvent tendance à faire de ce que moi j'appelle du christianocentrisme. C'est-à-dire qu'on veut que, dans l'islam, il y ait les mêmes choses, le même comportement, les mêmes organisations, la même organisation que la religion chrétienne. Le propre de l'islam, c'est qu'il, par définition, il n'y a pas de clergé. Et là, je m'opposerai à ce que dit Homero, par exemple, sur le cas de l'existence des autorités. Certes, il y a une autorité. Il y a des gens que l'on nomme, et je pourrais, de ce point de vue-là, aborder le mariage, ou plutôt la connivence entre politique et école juridique, parce que de ce point de vue-là, il y aurait à boire et à manger. Si aujourd'hui, il y a 4 écoles juridiques dans le monde sunnite, c'est pas parce qu'elles étaient plus fortes que d'autres, mais parce qu'elles ont eu un appui politique d'un instant T de l'histoire qui leur a permis par la suite d'exister jusqu'à maintenant, ou parce que des pouvoirs ont décidé de les adopter. Mais là n'est pas la question. La question se pose au niveau de qu'est-ce qu'un imam finalement ? Un imam, c'est pas un prêtre. L'imam, par définition, c'est quelqu'un. C'est pas une fonction cléricale, si je puis m'exprimer ainsi. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va se retrouver devant les autres pour diriger la prière. Imam, ça vient de l'arabe amam, qui veut dire devant. Donc, celui-ci ne suit pas forcément. Il n'y a pas d'école, par exemple, de formation des imams. Alors aujourd'hui, on en entend parler en France. On veut former des imams. Mais moi, par exemple, j'ai pas été formé pour être imam. Mais on fait des études de théologie Et parce qu'encore une fois, c'est pas un sacerdoce, eh bien, on est amené à un moment donné à occuper, à se retrouver devant, on dirige la prière, parce que la prière, celui qui la dirige, c'est celui qui connaît le mieux le Coran ou celui qui connaît le mieux les règles de la prière. Ça s'arrête là. Il se trouve qu'en France, ceux qui sont imams, soit ils le sont par défaut, soit ils le sont parce qu'ils ont plus de bagou que d'autres, mais pas parce qu'ils ont une formation ou la colonne vertébrale théologique nécessaire pour faire face à cela.
On est en Mangio.
Vous parliez de cet aspect inconscient. Moi, ça m'interpelle beaucoup également. J'ai fait une expérience une fois quand je participais à un temps de travail avec un parterre d'imams et je leur faisais la remarque suivante. Je leur dis, si on prend une feuille maintenant, tous, chacun de son côté, et on résume la vie du prophète en 10 points, que va-t-il se passer ? Nous allons rédiger une trame de la vie du prophète qui sera certainement la même chacun, avec donc la prédication à la Mecque, du moins la vie avant la prédication, qu'il soit prophète, la prophétie, la prédication à la Mecque, l'égire vers Médine, et ensuite, durant la période médinoise, vont s'en suivre tout un ensemble de batailles. Il y a des études contemporaines qui sont faites, notamment par un professeur en Arabie Saoudite qui a réussi à démontrer que le volume total des batailles qu'a pu livrer Mohammed est négligeable dans sa vie. Pourtant, dans les biographies qui circulent, c'est une part prédominante de la vie des musulmans à Médine. Je dis bien dans les biographies qui circulent. Donc, on voit bien que des études historiques contemporaines qui tamisent les différentes sources musulmanes parviennent à des conclusions différentes de ce que les musulmans apprennent et qu'ils reproduisent. Nous sommes dans un schéma de reproduction et il est inconscient parce que on n'a même pas à l'esprit toutes les conséquences que cela a dans l'image que l'on projette chez l'autre, le non-musulman qui dit mais finalement c'est comme un musulman qui pourrait dire le prophète était quelqu'un de très gentil, il était très gentil avec ses différentes coépouses. Quand on dit ça comme ça de but en blanc, sans avoir le recul critique historique, une personne qui n'est pas musulmane est choquée. Parce qu'elle se dit, mais attends, c'est quoi votre prophète ? Il avait combien de femmes ? Il faisait quoi, etc.
Ouais, c'est pas la gentillesse qu'on retient, mais c'est les coépouses.
Voilà, c'est le terme de coépouse. Donc, ce manque d'historicité et ce manque de recul critique pose aujourd'hui un vrai problème.
Guillaume Goubert.
Mohamed Bajrafi, vous avez évoqué tout à l'heure les 4 écoles juridiques d'interprétation du Coran et qui sont, on peut préciser que c'est des écoles qui se reconnaissent mutuellement alors qu'elles ont enfin je crois, vous me corrigerez si je dis une bêtise, mais j'ai cru comprendre que c'était des écoles d'interprétation du Coran qui avaient des interprétations différentes mais qui reconnaissaient mutuellement la légitimité de leur travail, ce qui va à l'encontre d'une idée assez communément reçue à l'extérieur du monde musulman, d'une religion très monolithique et très univoque. Comment expliquez-vous cette perception de l'islam comme univoque ? Quelle est la part de responsabilité de ceux qui regardent l'islam et quelle est éventuellement la part de responsabilité du monde musulman lui-même ?
Je pense que cela relève d'un phénomène somme toute banal qui est qu'avec le temps, certaines choses acquièrent une sorte d'autorité et on pense moins à questionner le fondement de celles-ci que à les accepter comme elles le sont. En réalité, quand on regarde l'histoire, c'est loin d'être le cas. Ces écoles juridiques se sont parfois violemment combattues. J'en veux pour preuve la coexistence de la première école, qui est l'école appelée Hanafite, faite par un monsieur qui s'appelait Abu Hanif al-Nu'man, qui est mort en 150 de l'Égir, après être né en 80 du même calendrier. Ses adeptes, les Hanafites qui vivaient par exemple en Syrie, et les Shafi'ites, c'est de l'école de l'imam chef qui est né en 550 et qui est mort en 204 de l'Égir, eh bien pendant près de 700 ans, ils ne se mariaient pas entre eux. Je vais vous dire à quel point, si aujourd'hui on vient présenter l'idée d'une entente qui a toujours été le cas, et on dit même que Shafi'i serait tué par des disciples de son maître Malik. Donc, c'est vous dire que c'était loin d'être le cas. Aujourd'hui, des fois, je titille mes co-religionnaires sur des questions basiques, par exemple sur les ablutions. si je fais les ablutions, qu'est-ce qui rend les ablutions? Eh bien, pour les chefferides, par exemple, si je suis avec mon épouse et qu'on se touche par la main, les ablutions se cassent. Les malikites considèrent au contraire que les ablutions sont là. Et in fine, on a pu avoir des réactions dans la pratique même de ces, dans l'observance de ces deux écoles juridiques, eh bien des réactions qui ont conduit par exemple à dire que ben, tu ne peux pas suivre l'autre parce qu'il n'a pas d'ablution. Donc c'est des choses qui ont existé et qui qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre sous le tapis, faire comme si de rien n'était. Parce que c'est malheureusement là aussi le problème auquel nous sommes confrontés. Parce qu'à force d'angéliser, si vous me permettez l'expression, cette vie-là ou ces gens-là en disant eux, ils ont vécu les uns à côté des autres dans la paix, etc., un peu comme dans le petit chaperon rouge dans une situation initiale, eh bien, au fond, on oublie de dire aux gens que c'est pas comme ça et qu'il faut, au contraire, que nous aussi, nous nous réapproprions les textes pour les lire comme ils ont pu les lire et que nous acceptions de diverger comme ils ont pu diverger.
Mais Romain Rongiou, est-ce que, et je vous poserai la même question, Mohamed Bajrafid, c'est-à-dire que ce que vous nous dites là, c'est évidemment le fruit d'une grande érudition hein, sur ce qu'est l'islam, sur ce qu'est le texte coranique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut passer forcément par cette érudition-là pour combattre les interprétations problématiques qui sont faites du Coran, Romain Rongiou?
Pas pour le commun des musulmans. Moi, depuis de nombreuses années, j'ai fait machine arrière. Bon, c'est un peu de notoriété publique que lorsque je me suis converti à l'islam, je suis passé par une matrice islamiste pendant près de 15 ans. Ensuite, je m'en suis détaché. Les frères musulmans, dans le contexte français. Et ensuite, je m'en suis détaché. Je me suis détaché aussi de tout un prisme religieux qui considérait que le musulman doit apprendre sa religion. C'est un leitmotiv. Il faut apprendre, il faut apprendre, il faut apprendre, il faut apprendre. Donc il faut connaître le Coran, il faut connaître le corpus de la tradition, il faut connaître les différents avis juridiques. Alors on s'amusait, et Mohamed l'illustre très bien, on avait des cours comme ça, et puis on s'amusait à étudier la divergence, et puis on l'étudiait dans les moindres détails, etc. Mais au final, pourquoi? Un musulman a besoin, s'il veut pratiquer sa religion, il a besoin de connaître des rites qui sont extrêmement dépouillés à la base. Pratiquer la prière musulmane, c'est extrêmement simple finalement. Pratiquer le jeûne, c'est extrêmement simple également. Il a besoin dans son viatique spirituel d'avoir un ensemble d'éléments qui se résument à savoir quelques rites de base. Il n'a pas besoin de plus que ça, le musulman. Ce qui s'est passé au début du XXe siècle, c'est qu'il y a eu un mouvement alors, qui était concomitant au développement aussi de l'islamisme. Il y a eu la diffusion, il y a eu la massification de l'accès aux textes chez les musulmans, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc aujourd'hui, un musulman a une bibliothèque parfois jusqu'à plusieurs milliers d'ouvrages, ce qui n'était pas le cas pour le commun des musulmans précédemment jusqu'au 19e siècle. Donc on a énormément de livres et il y a une surenchère qui fait le lit de leaders religieux qui s'arrogent le droit d'orienter les comportements des fidèles. Et là, ça nous mènerait à toute une discussion sur les stratégies qui sont déployées par des leaders religieux, souvent issus de matrices islamistes et salafistes, mais pas uniquement, on peut le trouver aussi dans le giron soufi, qui vont user de quoi? Ils vont dire « tu es responsable devant Dieu ». Donc tu as une responsabilité, mais pas pour exercer ton libre arbitre. Si tu as une responsabilité, c'est que tu dois vivre conformément à ce que Dieu t'a demandé. Et on va faire entrer le musulman dans ce que j'appelle moi le parcours de fragilisation, c'est-à-dire qu'on le fragilise dans sa pensée critique pour orienter son comportement vers une espèce d'islam totalisant qui doit régenter les moindres aspects de sa vie, mais à la sauce de ce que ses leaders religieux veulent. Et là, il y a vraiment quelque chose à creuser dans l'islam contemporain.
Vous êtes d'accord avec ça, Mohamed Bajrafid? Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance très précise de ce qu'est le Coran pour être musulman et pour aussi pouvoir peut-être répondre et réagir à certaines de ces interprétations?
Je pense qu'il faut deux sciences, en réalité, pour faire face à tout cela et à la vie au quotidien. La première, c'est ce que les traditionnalistes appelaient autrefois « fiqh al-hal » ou « ilm al-hal », la connaissance de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le musulman lambda, et ça a été très bien dit par Romero, n'a pas besoin de lire 36 000 ouvrages pour comprendre telle ou telle chose. Non, celui par exemple qui n'a pas d'argent, il ne lui est pas obligatoire d'apprendre à faire ce qu'on appelle la zakat, à donner l'aumône, parce que l'aumône est obligatoire pour quelqu'un qui en a les moyens. Donc on lui dit ce qu'il doit apprendre, c'est quoi ? C'est comment faire la prière, et c'est vraiment très très simple, et comment faire le jeûne. Un point à la ligne.
Mais savoir... on pourrait dire qu'une meilleure connaissance, ou en tout cas une bonne connaissance de ce que sont les versets coraniques, par exemple, c'est aussi une arme pour se protéger de certaines des interprétations, c'est-à-dire de pouvoir aussi répliquer, peut-être, quand on se retrouve face à un enseignement qui n'est pas celui que vous prenez, par exemple, Mohamed Bajrachil.
Je pense qu'en réalité, avant d'arriver à ce stade, il faut former les gens à ce que moi j'appelle le bon sens. C'est-à-dire que, en gros, on n'a besoin de personne pour savoir que voler, c'est pas bon, quelle que soit la culture dans laquelle on se situera. On n'a besoin de personne pour savoir que faire du mal à l'autre est quelque chose que toutes les morales du monde condamnent. Bref, si cela est mis dans la tête de chaque croyant, indépendamment d'ailleurs de son orientation théologique, je pense que si l'école réussit cela. Et c'est pour ça qu'en réalité, on n'a peut-être pas besoin d'imam ou de je ne sais quoi. Déjà, doter, faire comprendre à tout un chacun, et moi, c'est en tant que religieux que je le dis à mes co-religionnaires, il faut que nous apprenions qu'en islam, le libre arbitre est l'élément fondamental. Peu importe ce que diront les gens, moi, je n'aurai pas à répondre de ce qu'Homero a dit ou de ce que vous auriez dit, mais j'ai à répondre de moi et seulement de moi. Donc, à partir de là, si on arrive vraiment à planter cela dans l'esprit des gens, le reste, on peut venir nous raconter ce qu'on veut, mais si l'enfant qui va, par exemple, accéder à Internet est doté de cela suffisamment, bah, si quelqu'un vient lui dire « tire sur ton médecin », il va se dire « mais c'est quelque chose qui n'a pas de sens ».
Nous avons quand même un imam qui nous dit que nous n'avons peut-être pas besoin d'imam. Ça, c'est quand même un principe. Guillaume Goubert.
Hervé, dans le texte de l'appel que vous avez cité tout à l'heure, appel adressé au monde musulman, il était question de frapper d'obsolescence certains versets du Coran, mais il était question aussi de dire il faut que les autorités théologiques se prononcent. Existe-t-il ou non dans le monde musulman des autorités théologiques qui puissent se prononcer, sinon sur le Coran lui-même, du moins sur les interprétations du Coran ? On dit souvent, mais là peut-être encore c'est du christianocentrisme, que l'université Al-Azhar au Caire peut jouer un rôle on imagine que ça pourrait être comme la congrégation pour la doctrine de la foi chez les catholiques. Est-ce qu'effectivement, Homero, dans le monde musulman, l'univers sunnite, l'université Al-Azhar, peut jouer un rôle important dans ce domaine de régulation des interprétations du Coran?
Oui, et pas qu'elle. Moi, je considère que c'est un faux problème, encore une fois, cette idée selon laquelle il n'y a pas de clergé centralisé, etc. Les grands théologiens musulmans se rencontrent. Il existe des lieux depuis, je ne sais pas, peut-être Mohamed, tu connais un peu mieux que moi, je pense au moins depuis une quarantaine d'années, il y a des lieux où les grands théologiens du monde musulman se rencontrent régulièrement. Il y a plusieurs associations internationales de théologiens musulmans, et même au niveau aussi bien de la Ligue arabe que de l'organisation de la conférence islamique, même si elles sont un peu, on va dire, en concurrence au niveau du leadership de par le monde musulman, il y a cette dimension religieuse qui est inclue avec des autorités religieuses qui sont participantes. C'est quand même l'université d'Al-Azhar, dans les années 70, qui a impulsé le travail d'élaboration d'un code musulman unifié pour l'ensemble des pays du monde arabe. C'est-à-dire, c'est qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une église centralisée ou un clergé centralisé, il y a des corps de clercs qui se connaissent, qui se rencontrent, qui se voient, qui sont capables de diffuser un discours. Et sur ces aspects-là, ben, ce que renvoie le monde musulman à l'ensemble de la planète, c'est quand même l'idée selon laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, ben, on a quand même fait une Déclaration universelle des droits de l'homme de la Ligue arabe, on a fait une Déclaration universelle des droits de l'homme de l'organisation de la conférence islamique, qui ont squeezé des aspects fondamentaux des libertés humaines. Donc l'image qui est renvoyée, c'est un monde musulman qui est replié avec des doctrinaires, des leaders religieux, qui n'arrivent pas à entrer dans le siècle.
Mohamed Bajrachil.
Je pense que Il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, et ce serait pas honnête de le nier, je dirais pas des leaders, mais, ou même des universités, parce que l'université d'Al-Azhar aujourd'hui, elle se sent même menacée, elle se sent même infiltrée par le salafisme. Je pense qu'Homero doit le savoir. Donc finalement, il y a des azharites, des gens de l'Azhar, qui disent que le Azhar, l'université d'Al-Azhar n'est plus ce qu'elle était. On peut sans conteste reconnaître que le wahhabisme a beaucoup pémaillé le monde musulman, notamment à travers les bourses qui étaient envoyées dans le monde musulman pour que des enfants issus de différents coins du monde soit envoyé à l'université de Médine ou à une autre université saoudienne pour y recevoir la formation islamique selon l'idéologie wahhabite, ce qui fait qu'aujourd'hui le wahhabisme a pignon sur rue, bien qu'en réalité il ait toujours été minoritaire, mais les pétrodollars ont été, de ce point de vue-là, injectés et ont, pourrait-on dire sans conteste, inondé le monde musulman. Et ce qui fait qu'aujourd'hui des idées qui hier étaient extrêmement minoritaires passe aujourd'hui pour l'alpha et l'oméga de l'islam, parce qu'encore une fois, on a mis de l'argent dedans. Donc, on peut reconnaître cela. Mais en même temps, on doit dire qu'il y a, comme qui dirait, un changement d'autorité. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui mènent le bal, si je puis m'exprimer ainsi, c'est ceux qui ont des sites internet suivis ou qui ont une communication très forte. C'est peut-être pas le cas d'Homero ni de le mien, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc il y a, comme qui dirait, une adaptation en réalité du monde, du moins sur le plan des nouvelles technologies.
Mais là, on parle à l'échelle mondiale, mais est-ce qu'on pourrait imaginer Mohamed Bajrafil, qui est un islam français, enfin cet islam français, il existe, mais qui puisse peut-être justement agir de façon suffisamment autonome pour essayer de promouvoir une autre forme, en tout cas une autre lecture de l'islam qui ne soit pas celle qui paraît dominante justement au niveau mondial?
Je pense que c'est quelque chose qui impérativement viendra. Maintenant, pour ne pas se voiler la face, il y a des réalités qui sont celles des pays d'origine, qui continuent à tirer les ficelles derrière ceci ou cela. Donc c'est l'idée de l'islam de France, aussi même de la part des autorités publiques, a été aussi un islam sous tutelle. Là, tout le monde se rappelle la création façon tchouk-tchouka du CFCM au temps de Nicolas Sarkozy, où on a continué quelque part à vouloir que les pays d'origine soient représentés, alors que les jeunes Français n'ont que faire de ces pays-là. Et de ce point de vue-là, se sentent très mal représentés par des gens qu'ils appellent des blédards. Et là, c'est quelque chose qui aussi doit être entendu de la part des autorités politiques. Moi, je pense encore une fois qu'il faut, de ce point de vue-là, ne pas se casser la tête à chercher à doter l'islam de France d'une structure qui serait représentative. Faisons en sorte que l'école, notre école à nous, joue son rôle. Et encore une fois, c'est l'imam qui vous parle. Vous me disiez à juste titre que vous aviez en face de vous quelqu'un qui appelle les gens à se passer de lui. Ben moi, mon but, sincèrement, et je le dis partout, c'est que j'ai une marchandise intellectuelle à vous vendre, à vous vendre entre guillemets, je vous la présente, libre à vous de la prendre. Une fois que vous l'avez prise et que vous l'avez fait vôtre, comme disait Montaigne, elle cesse d'être à moi pour être à vous. Et si vous l'adoptez, c'est plus de moi, mais de vous.
Homero Marondio, sur cette question d'un islam français ou d'un islam de France qui pourrait porter un discours un peu singulier et autonome.
De toute façon, il y a deux phénomènes qui sont en train de se produire. Le premier, c'est celui de la sortie de la religion. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui sortent de l'islam de plus en plus parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le discours qui est véhiculé. Et il y a des dynamiques locales qui sont en train de s'agglutiner au fur et à mesure. Et le mouvement est déjà en marche. De toute façon, on ne pourra pas l'éviter.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Homero Marondio-Peria, je rappelle, en finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans. musulman, c'est aux éditions de l'Atelier, ça a été publié l'an dernier. Et puis encore plus récent, votre livre à vous, Mohamed Bajrafil. Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman aux éditions Plein Jour. Et puis si on veut, bien entendu, poursuivre la réflexion sur ce sujet, il faut lire le journal La Croix du jour. Merci Guillaume Goubert, son directeur, qui était présent comme chaque dernier jeudi du mois avec nous. Comment interpréter le Coran aujourd'hui? Vous répondez l'un et l'autre justement à cette question. Et puis bien sûr, l'émission, on peut la réécouter sur notre site internet franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Marine Beccarelli, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Anthony Thomasson.